Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. Des mots et des concepts instrumentalisés, vecteurs de désinformation ou de manipulation, des mots qui reflètent l'évolution du monde, on en parle aujourd'hui avec le juriste Valère Nyor, à l'occasion de la publication du nouveau dictionnaire de l'actualité internationale dont il a dirigé les travaux, ouvrage publié par les éditions Pédone. Utiliser l'intelligence artificielle pour imiter des images de caméras de surveillance afin de répandre de fausses rumeurs, voilà qui est fait aux dépens du Premier ministre britannique. Nora Litoussi des observateurs de France 24 révèle la mécanique de l'infox dans un instant. Mais pour commencer, on retrouve Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI. Il épingle de fausses informations qui circulent massivement autour du système monétaire européen et du CFA. L'euro, partagé aujourd'hui par 20 pays de l'Union, est donc actuellement la cible d'une vaste campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Alors que la Banque Centrale Européenne ambitionne d'émettre une monnaie virtuelle dans les prochaines années, certains parlent à tort de l'interdiction de l'argent liquide en France et même de la fin de la zone euro.
Oui, en croire une vidéo mensongère devenue virale sur TikTok cette semaine, la France aurait décidé, je cite, de quitter la zone euro pour utiliser le franc CFA. Cette fausse information repose sur plusieurs extraits de journaux télévisés attribués aux chaînes de télévision françaises M6 et BFM TV. Écoutez.
La France va sortir de la zone euro.
En Allemagne, le message est le même. L'euro, c'est fini. Chaque pays va revenir à sa monnaie.
Cette vidéo, vue plus de 4 millions de fois sur les réseaux sociaux, suscite beaucoup d'interrogations, notamment sur le continent africain. Dans les commentaires, des internautes pointent plusieurs incohérences. Un extrait présente notamment Mariano Rajoy comme l'actuel chef du gouvernement espagnol, alors qu'il a quitté ses fonctions en 2018. Idem pour Angela Merkel, présentée comme la chancelière allemande, alors qu'elle a été remplacée en 2021 par Olaf Scholz.
Des doutes légitimes, puisque ces journaux sont en fait sortis de leur contexte.
Oui, en faisant une recherche avec les mots-clés M6, BFM TV et sortie de l'euro, on retrouve rapidement la trace de ces extraits. En réalité, ce sont des journaux fictif, réalisé il y a maintenant 13 ans, en 2012, en pleine campagne présidentielle. La sortie de l'euro, argument poussé par le Front National de Marine Le Pen, était au cœur de l'actualité à ce moment-là. M6 et BFM TV avaient alors fait le choix de simuler le retour au franc qui n'aura finalement jamais eu lieu.
À noter, Grégory, que ce n'est pas la première fois que cette fausse information circule.
Non, chaque année, ces vieux journaux fictifs refont surface sur les réseaux sociaux au gré de l'actualité économique. Des comptes de désinformation les diffusent pour faire des vues et semer le trouble. Et les indicateurs de viralité montrent que cela fonctionne.
Et ce n'est pas la seule infox à circuler à propos de l'euro cette semaine, Grégory.
Eh bien non, dans la même veine, une vidéo affirme qu'une loi viendrait tout juste d'être votée en France pour interdire les espèces.
C'est confirmé, nouvelle loi en avril. L'argent liquide sera bientôt interdit partout en France et en Europe.
Mais une nouvelle fois, tout est faux. Nous avons vérifié dans le journal officiel et aucune loi de ce type n'a été promulguée en avril. Cette infox détourne en fait le projet d'euro numérique voulu par la Banque Centrale Européenne et qui génère aujourd'hui beaucoup de fantasmes.
Alors en réalité, en quoi consiste ce projet?
Eh bien d'après les documents officiels de la BCE, l'euro numérique n'est pas destiné à remplacer l'argent liquide, mais à proposer, je cite, une forme complémentaire de paiement. Si la carte bancaire est aujourd'hui le moyen de paiement le plus utilisé en France, plus d'un Français sur deux estime qu'il est important de pouvoir payer en espèces. Preuve que l'argent liquide a encore la cote.
Merci Grégory Genevrier. Votre chronique est à retrouver en images sur notre site RFI.fr ou bien en tapant Info Vérif RFI dans un moteur de recherche. Repérer, analyser la désinformation, cela permet aussi, en contrepoint, de se pencher sur le réel pour mieux comprendre la réalité économique, géopolitique. Beaucoup de choses fausses circulent en effet sur ces monnaies et crypto-monnaies. Ce devrait faire l'objet d'une émission à venir. En attendant, les enjeux internationaux, la façon dont l'actualité du monde se décline à travers les médias et les réseaux sociaux, on y revient tout de suite avec notre invité.
On en parle.
Nous accueillons à présent dans ce studio le juriste Valère Ndior, membre du projet Géode pour géopolitique de la datasphère, partenaire de cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé les travaux de plus d'une centaine de chercheurs de 12 pays qui ont abouti à la publication par les éditions Pedon d'un ouvrage de référence sur l'actualité internationale, un livre qui permet de décrypter cette actualité et de repérer comment les mots façonnent le message, comment ils nous informent ou nous égarent parfois. Ce n'est pas juste un dictionnaire de plus, alors quelle est l'originalité du dictionnaire de l'actualité internationale ?
La première chose, c'est qu'il s'agit en fait pas d'un dictionnaire juridique, bien que la majorité des auteurs soient des juristes spécialistes de droit international, venant d'une douzaine de pays. C'est un ouvrage qui est écrit par principalement des chercheurs en droit, mais qui en fait utilise comme source, comme matériau, des citations issues des médias, presse écrite, presse audiovisuelle, radio, des tweets, la culture populaire. Et l'objectif dans cette deuxième édition, c'est de décrypter, de démystifier plus de 400 termes, notions, expressions qui sont fréquemment employés dans les médias, dans le débat politique, dans le débat public.
À tort ou à raison, alors ?
À tort ou à raison. Certains termes sont des termes qui n'existent pas ou qui n'ont pas véritablement de définition. Et le but, c'est vraiment, en utilisant le contexte, d'expliquer au grand public de quelle manière ces termes et expressions sont utilisés et de quelle manière il faut en réalité les comprendre dans leur acception juridique ou géopolitique.
Donc le droit est la boussole, mais on va au-delà de ça. Et vous m'avez expliqué en préparant l'émission que quelquefois les contributeurs avaient eu des difficultés parce que dans cet exercice, il faut évidemment essayer de passer outre ses propres biais.
Oui, il faut passer outre ses propres biais, il faut accepter qu'on en a. Les notices sont de format assez court, elles font à peu près 5000 à 7000 caractères, ce qui représente dans l'ouvrage une page et demie. Il n'est pas possible d'utiliser des sources doctrinales, donc des références à des ouvrages juridiques et autres. Il fallait impérativement utiliser des sources issues des médias. Et donc ça veut dire que même des auteurs qui en réalité sont experts dans leur domaine ont dû adopter un nouvel angle d'attaque et faire une sorte de revue médiatique au cours des dernières années. Donc on pouvait remonter jusqu'aux années 90 pour trouver des illustrations pour corroborer leurs propos et se rendre accessible aux lecteurs.
Alors, c'est la deuxième édition du Dictionnaire de l'actualité internationale. La première, c'était il y a 4 ans. Quelles sont les nouveautés les plus marquantes, les nouvelles entrées de ce dictionnaire ?
Il y a une centaine de nouvelles entrées. Je dois préciser que l'ouvrage, la publication de l'ouvrage avait été retardée par la crise sanitaire. Donc, l'ouvrage aurait dû paraître en 2020 et il est paru après la crise sanitaire. Et donc, de ce point de vue-là, on peut noter la présence de termes qui sont consacrés, évidemment, à la crise sanitaire et à son traitement. Alors, en vrac, hein, pandémie, confinement, couvre-feu, vaccination, santé publique internationale. Sur le terrain du numérique, il y a beaucoup de termes qui intègrent le dictionnaire. Tout ce qui va correspondre par exemple à la question des plateformes numériques, streaming, intelligence artificielle, crypto-actifs, etc., etc., etc. Influence aussi, opérations informationnelles, tous les comportements qui peuvent se produire dans l'espace numérique. Et puis, peut-être pour finir, un certain nombre de termes qui sont consacrés à la question environnementale et au changement climatique, notamment sobriété, anthropocène, transition énergétique ou GIEC.
Bien, alors évidemment, on ne va pas faire le catalogue de toutes ces notions, mais je voudrais m'arrêter un petit peu sur la tech, sur la tendance numérique. Quand vous mentionnez plateforme, ce que vous dites dans le dictionnaire, c'est que ce n'est pas un terme neutre.
Alors, non, ce n'est pas un terme neutre. Alors, c'est vrai que déjà, il faut bien préciser qu'il s'agit de plateforme numérique, parce qu'il y a aussi la question des plateformes pétrolières qui auraient pu être abordées. Et d'ailleurs, il y a une notice pétrole. Mais l'idée, c'était de montrer que les plateformes sont des infrastructures, sont des services, sont des outils au service d'entreprises commerciales. Des entreprises commerciales qui peuvent avoir des intérêts, des idéologies, hein, comme le montre la situation aux États-Unis actuellement, l'alignement des plateformes, des principales plateformes avec l'administration Trump. Et donc voilà, il s'agissait de démontrer que, au-delà du terme, il y a vraiment une variété d'usages, une variété de formats et surtout une variété d'intérêts commerciaux, idéologiques, notamment en matière de modération des contenus.
Vous parlez aussi de la plateformisation de l'État, oui. Un terme employé péjorativement en fait.
Alors, C'est vrai que c'est un terme qui est souvent utilisé de façon péjorative. Il fait écho à un autre terme qui revient souvent dans le dictionnaire, c'est la tout-diplomatie, à savoir le fait que finalement les chefs d'État, les gouvernements, les administrations, les personnalités politiques utilisent de plus en plus les plateformes et les réseaux sociaux pour exercer leurs prérogatives régaliennes, pour communiquer.
Donc tout-diplomatie, une combinaison de Twitter et diplomatie.
Et diplomatie, c'est ça. C'est un terme qui a émergé dans le discours public et dans la recherche au début des années 2010, et auquel est d'ailleurs consacré un projet qui analyse annuellement la pratique des chefs d'État et des membres de gouvernement sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que plateformisation, très souvent, c'est présenté de façon péjorative, et en tout cas dans le dictionnaire, j'essaie, c'est moi qui fais cette notice, de le souligner.
Et alors justement, vous abordiez la régulation, les plateformes. Évidemment, quand on parle des plateformes, des grandes plateformes numériques, on parle régulation, on aborde là le terme censure. Et on voit dans la notice, justement, que ce terme de censure, il a beaucoup évolué. La définition historique n'est plus celle d'aujourd'hui.
Non, il est vrai que la censure est devenue, le terme de censure est devenu un peu une forme de conjuration, d'invocation, qui peut être utilisée tant par les dirigeants de plateforme, on refuse d'être les arbitres de la vérité, on refuse de censurer au nom de la liberté d'expression. C'est aussi un terme qui est de plus en plus utilisé par des communautés d'utilisateurs qui estiment, à tort ou à raison, être censurés, notamment du fait de la réglementation européenne qui serait pour les États-Unis un peu trop liberticide. Et donc, voilà, c'est assez intéressant dans cette notice qui a été rédigée par Martin Huguin de voir de quelle manière le terme a pu être instrumentalisé et s'éloigner finalement de sa véritable signification en droit et particulièrement en droit international.
Alors sur le Covid, on y revient sur cette crise sanitaire et tout ce vocabulaire, l'irruption de certains mots qui ont fait la une pendant des mois et des mois et qui sont encore d'ailleurs dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'il y a de plus remarquable ? Vous avez un article vaccination, par exemple, que j'ai trouvé vraiment très complet, qui m'a d'ailleurs beaucoup rappelé l'émission qu'on a fait la semaine dernière.
Alors oui, c'est vrai que il y a des notices qui ont été traitées par les mêmes personnes sur le plan thématique, alors notamment voilà, tout ce qui est confinement, couvre-feu, vaccination, c'est Caroline Lantéro, qui d'ailleurs n'est pas internationaliste, mais qui avait beaucoup analysé ces questions sous l'angle du droit médical. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est un peu à cause de ces termes qu'on s'est retrouvé à faire une deuxième édition. On s'est dit, on est passé à côté d'un phénomène qui a d'ailleurs retardé l'ouvrage. Et quand Caroline et moi avons discuté de la manière dont on devait traiter ces notices, il apparaissait évident que devait être mise en avant l'instrumentalisation, la décrédibilisation, la délégitimation du processus de vaccination dans le débat public, parfois dans la bouche de certains gouvernants, que ce soit aux États-Unis ou dans différents pays.
Au Brésil.
Au Brésil notamment, mais pas que, qui avaient finalement conspué les efforts de vaccination menés par l'OMS et qui avaient répandu des théories du complot, laissant entendre que voilà, toute personne qui se vaccinerait s'exposerait à une mort inéluctable ou à la poussée peut-être d'un troisième bras. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir que ce sont des préoccupations qui en fait ne sont pas spécifiques à la crise de Covid. La notice montre qu'en fait, la préoccupation liée à la vaccination, elle est ancienne, elle date de plusieurs siècles. Et donc voilà, on a toujours eu une certaine propension à décrédibiliser, à remettre en cause finalement la vérité scientifique, y compris le vaccin en l'occurrence contre la Covid.
Et alors ce qui est intéressant dans le dictionnaire, c'est qu'il y a ce jeu de renvoi d'une définition à l'autre de la vaccination, on passe au conspirationnisme. Alors le conspirationnisme, là aussi, c'est quelquefois un élément de langage qui s'est instrumentalisé aussi, la notion de conspirationnisme, complotisme.
Oui, en effet, lorsque les termes qui sont traités ensemble sont finalement conspirationnisme et complotisme. Dans un premier temps, l'approche de surface, c'est de désigner des entités, des communautés qui adoptent un comportement qu'on pourrait qualifier de complotiste ou conspirationniste. Alors, typiquement QAnon aux États-Unis, qui est d'ailleurs accusé d'avoir suscité ou encouragé l'assaut du Capitole en janvier 2021. Et puis, ce qui est intéressant, c'était de constater l'évolution très nette de ces termes à la faveur de la crise sanitaire, à la faveur de la poussée du mouvement MAGA, Make America Great Again, et puis plus largement à travers le monde. L'idée selon laquelle il existerait des stratégies, des complots, des conspirations des puissants, d'une forme d'intelligence CIA gouvernementale pour nuire à la santé, au bien-être, pour cacher la vérité à la population. Et je crois qu'on est aujourd'hui témoin de l'évolution de ce phénomène qui a évidemment bénéficié à de très nombreux gouvernements illibéraux de par le monde.
Alors, après la crise due ou de la Covid-19, février 2022, c'est le début de la grande offensive russe en Ukraine. haine et le recours à un vocabulaire chargé de références historiques. Le mot nazisme revient sur le devant de la scène, dans la bouche même de Vladimir Poutine d'ailleurs. Le dictionnaire y consacre une notice très intéressante.
Oui, il y a une notice qui est consacrée au terme nazi dans son acception médiatique et finalement avec une distance très nette avec le régime nazi tel qu'on pourrait le définir dans un dictionnaire historique ou géopolitique. L'idée, ça a été plutôt de montrer de quelle manière le terme nazi avait pu être instrumentalisé par le Kremlin pour, en gros, décrédibiliser à l'échelle internationale le gouvernement mené par Zelensky. L'idée, c'est de dire, voilà, nous sommes en train de mener une action d'intérêt général, d'intérêt international. Ce sont eux les ennemis. On va justement utiliser un terme qui heurte, qui choque. On va finalement remettre en cause l'intégrité d'un individu, d'un chef d'État, des personnes qui le soutiennent, en l'accusant d'être nazi, d'être raciste, de détester finalement les autres communautés. Alors c'est un argument qui n'a pas, à mon sens, prospéré à l'échelle internationale, mais il était intéressant de voir qu'il pouvait être devenu une sorte d'arme ou d'outil, un élément de discours, un élément de langage.
De même que le mot fascisme,
de même que certains autres termes qui sont traités dans la nouvelle édition, la question de l'intégrisme, du fondamentalisme et autres. Finalement, tous ces termes qui sont destinés à caractériser l'autre, à affubler l'autre d'un comportement qui ne correspond en fait à aucune réalité. Et donc voilà, c'est aussi ça qu'on a voulu faire. Montrer que, particulièrement dans le discours diplomatique, dans le discours politique, on va prendre des termes qui ont une signification très spécifique, que ce soit d'un point de vue sociologique, historique, géopolitique et autres, et on va les utiliser comme élément de disputatio. Voilà, vous n'êtes pas la personne que vous pensez être, vous êtes un danger, et finalement, c'est moi qui me trouve dans une position légitime. Et c'était vraiment très intéressant, mais aussi difficile de traiter ces notices.
Alors, est-ce que vous diriez que la récurrence de certains éléments de langage, tels ceux dont on vient de parler, ça marque un peu la polarisation des sociétés, que tout ça est dû en partie à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui ne sont plus aussi sociaux qu'on pourrait le penser dans certains cas?
Alors, je pense que c'est en partie le cas, et d'ailleurs la plupart des notions, des concepts que nous avons étudiés dans l'ouvrage ont été littéralement propulsés par les réseaux sociaux. L'idée selon laquelle on pourrait identifier une personne en l'assimilant à une communauté, à une cause, à une idéologie. Alors, je vous donne simplement un exemple. Là, il y a une notice qui est consacrée au terme woke ou wokisme. D'ailleurs, la notice est une notice conjointe où sont traités les enjeux aussi de cancel culture. Et je trouve ça assez intéressant parce que ce sont des termes qui sont un peu des raccourcis, des termes passe-partout, qui sont destinés en fait à résumer de façon assez brutale et simpliste ce que représentent les intérêts, les revendications, les préoccupations d'un individu, d'une communauté d'individus en raison de l'orientation sexuelle, de la religion ou autre.
Vous montrez dans la notice, c'est intéressant, c'est l'historicité de ce concept et le fait que ça a démarré quand même dans les années 60.
Oui, c'est ça, mais en fait, ce qui est le plus intéressant, et je trouve que justement Zéra Brémond l'explique très bien dans la notice qui les consacre, ce sont des termes qui se sont perdus et qui ont été un peu tirés des archives de l'internet, des personnes les ont retrouvés, se sont dit bah ça c'est un moyen très intéressant en fait de dire du mal de quelqu'un d'autre. Vous êtes woke, le terme woke normalement ça veut dire quelqu'un qui est éveillé à l'idée justement d'égalité, de discrimination et autres, et désormais c'est devenu un argument justement qu'on associe à la cancel culture, l'idée que selon finalement certaines personnes seraient animées par une idéologie communautaire. Et donc, c'est un très bon raccourci pour dire « je ne veux pas entendre ce que vous avez à dire, votre progressisme ne me convient pas, vous êtes woke, vous faites du wokisme ». Et ça, on le retrouve aussi bien de notre côté de l'Atlantique qu'aux États-Unis, dans le discours, dans la parole des décideurs politiques, des personnalités politiques, de membres de gouvernement, ce qui est assez préoccupant, et c'est ce qu'on essaie justement de mettre en avant dans notre travail.
Alors, vous définissez aussi des termes, en fait, de choses qui, selon certains, n'existent pas. Néanmoins, ils existent dans le vocabulaire. On entend parler, surtout quand on s'intéresse à l'actualité internationale, on entend sans arrêt parler de la communauté internationale. Bon, on a entendu Hubert Védrine depuis de longues années nous dire que ça n'existe pas. Vous le définissez quand même.
Alors, c'est vrai que c'est un terme qui est clivant pour les internationalistes. Moi, j'ai tendance à hésiter quand j'enseigne entre communauté internationale et société internationale, et qu'il existe encore une communauté. C'est vrai que donc, dans la notice qui les consacre, Olivier Corten montre la forme de décrépitude de l'expression de communauté internationale. On y pensait avec une certaine légitimité, on disait avec une certaine légitimité à l'époque où les Nations Unies étaient perçues comme un cadre justement de discussion, d'échange, d'action concertée, d'action collective. Et aujourd'hui, face à la crise des organisations internationales, se pose la question de savoir s'il existe toujours une communauté internationale animée par des intérêts communs, ou s'il existe plutôt une diversité, une variété de groupes d'États qui vont décider de ne travailler que les uns avec les autres. Et d'ailleurs, il y a une notice qui est intéressante, qui est une notice avec un titre anglais, c'est le friendshoring. Et le friendshoring, tel qu'il est défini par Geneviève Dufour dans l'ouvrage, c'est un terme qui désigne le fait de décider finalement de mener des relations commerciales uniquement avec ses alliés, indépendamment de toute considération liée au multilatéralisme. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des termes qui sont utilisés pour finalement dire, non pas qu'ils n'existent pas, mais qu'on éprouve une certaine réticence à les utiliser, y compris en tant que juriste.
Et alors, quelquefois, vous donnez la définition de mots qui ont l'air tout à fait banal, je voudrais prendre l'exemple du mot « constater ». Vous faites tout un article sur le mot « constater ». Alors, moi, je trouve ça intéressant de s'y arrêter, justement parce que ça repose sur la réalité des faits.
Oui. Alors, en fait, la notice « constater » fait partie d'une série de notices génériques. C'est d'ailleurs à cause de ces termes que le dictionnaire existe. À la base, c'était un petit site internet sur lequel on avait identifié tous ces termes génériques. « Constater »,« souligner »,« déplorer »,« menacer »,« alléguer ». Et donc, il y a plein de notices génériques de ce type-là dans l'ouvrage. Et il est vrai que « constater », du point de vue du droit, du point de vue de la géopolitique, c'est un élément qu'on va retrouver dans de nombreux articles de presse pour dire voilà, l'État français constate cette situation. Mais d'un point de vue juridique, il faut aussi en tirer des conséquences parce que le constat est généralement la première étape vers l'activation de certains mécanismes, par exemple onusiens, mécanismes de sécurité collective ou autres. Donc oui, c'est un terme générique qui peut être utilisé de façon un peu passe-partout, mais ce qu'on tente d'expliquer, c'est que il y a une raison pour laquelle ce terme apparaît dans de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité et autres. Il s'agit de constater pour éventuellement entrer en action.
Alors, c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait beaucoup de juristes qui ont travaillé à ce dictionnaire. Il y a énormément d'articles sur toute la terminologie crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, etc., etc. Et vous montrez bien les implications juridiques qu'il y a à l'emploi de certains termes. Je pense au mot torture également.
Oui, on a et d'ailleurs le volume de ces termes s'est grandement étendu, notamment en raison des conflits, la guerre de Gaza et puis l'agression de l'Ukraine par la Russie. On a tout un vocabulaire du droit international humanitaire qui a été parfois malmené, alors évidemment par le Kremlin, par certains de ses alliés pour dire il y a agression, il y a pas agression, mais aussi parfois par méconnaissance, hein, par le grand public dans le débat politique. Voilà. Est-ce qu'il s'agit d'un génocide ou pas ? Qu'est-ce qu'un crime de guerre ? Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité ? Ça ne mobilise pas les mêmes mécanismes, ça ne correspond pas aux mêmes dispositions juridiques, et en plus c'est un domaine sur lequel les universitaires ont été extrêmement sollicités au cours des deux dernières années, couloirs humanitaires, victimes civiles et autres. Et donc vraiment, il était important pour tout ce vocabulaire qui se rattache au conflit armé d'expliquer ce que cela signifie, à quel instrument juridique cela se rapporte et pourquoi l'utilisation de ce terme par des personnes malveillantes ou par des gouvernements animés de mauvaises intentions, d'intentions notamment criminelles, représente un danger dont il faut évidemment se départir quand on débat publiquement comme nous sommes en train de le faire actuellement.
Merci beaucoup Valère Ndior. Effectivement, un livre utile à tous les amoureux de l'actualité internationale, un livre qui est une sorte de boussole qui permet de faire la part des choses et de débattre vraiment sur des notions précises. Alors ce dictionnaire de l'actualité internationale qui vient de paraître sous votre direction avec la collaboration éditoriale de Inoussa Soré et Martin Huguin est un travail collectif soutenu par le LabLex, laboratoire de recherche en droit, l'Université de Bretagne occidentale et l'Institut universitaire de France. La désinformation passe par les mots, mais aussi par le détournement ou la création d'images. On y vient avec Nora Litoussi, journaliste aux Observateurs de France 24. Bonjour Nora.
Bonjour.
Le Royaume-Uni s'apprête à voter lors d'élections locales, les premières depuis les législatives de 2024 qui ont porté le Parti travailliste au pouvoir avec Keir Starmer à la tête du gouvernement. Et comme souvent en période préélectorale, eh bien, plusieurs infox circulent sur les réseaux sociaux visant directement le Parti travailliste, le Labour. L'une d'entre elles a particulièrement retenu votre attention, Nora, une vidéo devenue devenue virale, censée montrer le Premier ministre britannique Keir Starmer en train d'embrasser l'un des donateurs de son parti. C'est une infox, une affaire montée de toutes pièces. Vous allez nous dire comment. Mais tout d'abord, que montrent ces images ?
Eh bien, sur cette vidéo, on voit deux hommes qui s'embrassent de nuit et qui auraient été filmés par une soi-disant caméra de surveillance. Selon les internautes qui partagent la vidéo, il s'agirait de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, chef du Parti travailliste, et de Lord Wahid Ali.
Et qui est-il, ce Lord Wahid Ali ?
Alors, c'est un homme politique, membre de la Chambre des Lords au Parlement britannique. Il est aussi entrepreneur dans l'audiovisuel et donateur du Parti travailliste. Mais surtout, ce qu'il faut préciser, c'est que ce qu'on voit dans cette séquence est en réalité une vidéo générée par intelligence artificielle.
Mais alors, quels éléments vous ont permis de dire qu'il s'agit d'un faux ?
Alors déjà, même si cette vidéo était vraie, on ne peut absolument pas affirmer qu'il s'agit de Keir Starmer et de Lord Wahid Ali. L'image est sombre, floue, de très mauvaise qualité et les visages sont à peine visibles. Ensuite, plusieurs anomalies visuelles. D'abord, le code horaire en haut à droite est incohérent. Les secondes restent figées alors que les personnes bougent, ce qui n'arrive jamais sur une vraie caméra de surveillance. Ensuite, on repère des défauts caractéristiques des contenus générés par IA. Par exemple, une main qui n'est reliée à aucun bras, qui semble fondre puis se confondre avec la capuche d'un personnage. Ce genre d'incohérence est assez typique des deepfakes mal générés. Et enfin, il y a un dernier élément qui confirme que tout cela est faux. D'autres rumeurs affirment que cette vidéo aurait été fuitée par l'humoriste britannique Jim Davidson, sauf que lui-même a démenti catégoriquement sur YouTube et a dénoncé une fake news générée par IA.
Alors justement, est-ce que l'on sait qui est à l'origine de cette vidéo ?
Alors cette vidéo, elle a été postée d'abord sur TikTok par le compte conspirationniste Head Full of Dreams. La vidéo, elle a été depuis effacée et elle a entre-temps été relayée sur X, notamment par des comptes d'extrême droite en France, en Italie ou encore en Nouvelle-Zélande. Elle cumule à ce jour plus de 4 millions de vues et il faut savoir que le compte Head Full of Dreams diffuse régulièrement des vidéos complotistes montées à l'IA. Par exemple, une autre vidéo générée par IA postée sur le même compte montre Michelle Obama en train de se raser le visage dans une salle de bain. Cette vidéo-là, elle vient nourrir une vieille théorie complotiste, celle qui prétend que l'ancienne première dame des États-Unis serait en réalité un homme.
Oui, et puis il faut dire que ce compte lui-même se revendique conspirationniste. Alors, quel est l'objectif de ce type de contenu, à votre avis ?
Alors, ce n'est pas par hasard si cette vidéo surgit maintenant. Pour comprendre, il faut replacer les choses dans le contexte politique. Depuis plusieurs mois, la proximité entre le Premier ministre britannique Keir Starmer et Lord Wahid Ali est très critiquée. En cause, ce qu'on appelle l'affaire des freebies, donc des cadeaux et dons estimés à plus de 120 000 euros envoyés par Lord Ali à Keir Starmer et à plusieurs membres de son gouvernement. Cette vidéo, elle vient donc alimenter une polémique déjà existante en renforçant les soupçons qui planent déjà sur la relation entre les deux hommes politiques. Et donc l'objectif est clair, entacher la réputation de Keir Starmer. Et donc il semblerait qu'il y ait aussi un enjeu électoral, puisque dans quelques jours, le 1er mai, auront lieu les élections locales au Royaume-Uni. Et donc cette vidéo, elle arrive à un moment stratégique pour ses opposants, qui cherchent à fragiliser le parti travailliste et à ternir son image. D'autant plus qu'elle s'inscrit dans une vague récente d'intox visant Keir Starmer et son parti, largement diffusé sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup Nora Litoussi. Ce travail de vérification est à retrouver sur le site des observateurs de France 24. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités, chroniqueuses et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. On se retrouve ici même la semaine prochaine. En attendant, l'émission est en ligne sur le site et l'application RFI Pure Radio. Mais tout de suite, je vous laisse en compagnie de Paul Lonsin-Spinelli.
Et merci Sophie Malibaud. Un tout petit peu plus de 30 minutes, ce sera Afrique Soir, la première édition. Et c'est avec vous Sylvie Berbé, bonsoir.
Bonsoir Paul, bonsoir à tous.
Et à la une Sylvie ?
Eh bien c'est une nouvelle donne diplomatique qui va se jouer ce soir à Washington. Les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda doivent signer une déclaration de principe en vue d'une trêve. Une signature sous l'égide de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Et tout cela à la suite d'une promesse de trêve dans l'Est du Congo. Le dossier d'Afrique Soir lui sera consacré à la situation humanitaire alarmante au Soudan depuis l'intensification des combats entre l'armée soudanaise et les FSR, les forces de soutien rapide, qui se sont emparées il y a deux semaines du camp de déplacés Zamzam, un camp géant, le plus grand d'Afrique. Il abritait environ 500 000 de personnes. Et puis nous reviendrons bien sûr sur la journée mondiale contre le paludisme.
Merci Sylvie Berru, Afrique Soir. C'est à 20h30, heure de Paris. RFI. Il est pratiquement 20h à Paris, 18h temps universel. Restez bien avec nous. Dans 30 secondes, c'est le grand journal du soir avec Christophe Paget.